9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. On voit ça avec Cédric Mas, qui est historien militaire. Est-ce qu'on peut revenir sur la météo, Cédric Mas? Vous y avez fait allusion, mais là, on entre dans la saison verte en Ukraine.
Alors, en effet, vous êtes bien informé, ce que les partisans ukrainiens lors de la Seconde Guerre mondiale appelaient la saison verte, qui était rouge pour les Allemands, c'est-à-dire que vous avez des forêts de feuillus qui vont se couvrir d'un coup. On a vu les forêts, la progression de l'armée russe qui descendait vers Kiev à partir de Tchernobyl dans des forêts qui étaient assez hivernales. On voyait à travers les branches, et bien désormais tout cela va se couvrir de vert. Et donc ça va permettre aux petites unités d'infanterie ou aux unités russes qui sont en train de creuser des retranchements dans toutes les positions qu'elles ont atteintes, et bien de pouvoir mieux se camoufler par rapport aux vues. Et c'est très important par rapport aux techniques modernes, puisque aujourd'hui nous avons des techniques qui se font par guidage de drones caméras, y compris des drones qu'on trouve dans le commerce, c'est-à-dire les drones que vous pouvez offrir à vos enfants, servent également aux forces à guider leurs tirs d'artillerie et leurs opérations. Or ça, il faut des vues, et ces frondaisons très fournies vont empêcher les reconnaissances aériennes et les vues à partir de là, ou en tout cas les gêner beaucoup plus.
Et l'armée russe a toujours eu l'initiative dans cette guerre. Les Ukrainiens n'ont jamais réussi à prendre l'initiative à leur tour.
Alors, en fait, l'armée russe est l'envahisseur, donc c'est lui qui a déclenché, c'est elle qui a déclenché l'initiative, c'est l'envahisseur qui a toujours l'initiative au début, c'est elle qui a choisi les fronts où elle produisait les efforts principaux, donc c'est ainsi qu'elle a pu progressivement se redéployer, encercler et faire le siège de Mariupol, par exemple, et progressivement se redéployer vers l'Est. Les forces ukrainiennes ont tenté de se saisir de l'initiative. Le camp qui a l'initiative sera celui qui pourra vaincre. Et si aujourd'hui les forces ukrainiennes cherchent à vaincre militairement l'armée russe, il leur faut se ravir l'initiative à l'armée russe. Et pour l'instant, elles n'y ont pas réussi. Les contre-offensives des forces ukrainiennes n'ont réussi que dans quelques sections très particulières de terrain. Et essentiellement, les territoires repris l'ont été parce que l'armée russe s'est retirée et non pas parce que l'armée ukrainienne a encerclé ou l'a repris, les auront pris de vive force. C'est-à-dire que les succès de forces ukrainiennes ont été défensifs. Et pour l'instant, aujourd'hui, dans cette nouvelle phase, c'est à nouveau l'armée russe qui a l'initiative, même si, on le voit, les forces ukrainiennes tentent aussi des opérations plus ou moins réussies, mais toujours avec des succès très locaux.
L'Ukraine peut-elle gagner cette guerre militairement? Vous y faites allusion, les autorités ukrainiennes, évidemment, le prétendent, mais vous y croyez, vous?
Alors, je ne suis pas devin, et ce n'est pas l'objet d'un historien de vous parler de l'avenir, mais aujourd'hui, les conditions sont réunies pour, si l'Ukraine parvient à prendre cette initiative, à infliger à nouveau des défaites à l'armée russe, à un moment donné, il risque d'y avoir une défaite militaire. Le vrai sujet dans l'histoire militaire de l'armée russe, tsariste, soviétique, puis à nouveau russe de la Russie post-soviétique de Vladimir Poutine, c'est que c'est un pays qui nous a montré dans le passé une capacité à s'effondrer en plein milieu d'un conflit. Donc la vraie victoire militaire, elle sera politique, elle sera à Moscou, et c'est je pense ce que visent aujourd'hui les forces ukrainiennes en infligeant le maximum de pertes et de défaites tactiques, y compris simplement défensives à l'armée russe. Mais aujourd'hui, l'armée russe, le succès de l'armée russe pose question, est en balance.
Mais on a l'impression que les Ukrainiens, pour l'instant, font surtout de la guérilla. C'est ce qui leur a permis d'arrêter l'armée russe, d'ailleurs. Mais ça ne permet pas de gagner une guerre.
Exact. Alors, ils ont fait un peu plus que la guérilla. La guérilla, c'était par exemple les méthodes des milices djihadistes de l'État islamique en Syrie ou en Irak lors de l'avance de Mossoul. Là, ils ont fait plus. Ils ont réussi à tenir des fronts constitués. Et on le voit dans le Donbass, c'est le même front quasiment depuis 2015 qui ne bouge pas et qui résiste encore au bombardement, qui se fait simplement grignoter, perdant un village ou un petit hameau de ci, de là, sans réellement que la carte ne bouge et que les choses ne changent fondamentalement. Donc on est déjà sur un niveau. C'est une armée qui est régulière, qui a des unités mécanisées. Mais il leur faut passer encore le niveau dessus, c'est pouvoir battre du fort au fort, comme ils l'ont fait quand ils ont coulé le croiseur Mazva, battre du fort au fort l'armée russe, c'est-à-dire pouvoir attaquer, percer, encercler eux-mêmes et battre sur le terrain l'armée russe, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire jusque-là. Ils n'ont réussi qu'à reprendre des terrains qui étaient évacués sous la pression suite à des défaites de leur offensive de la part des forces russes, mais pour autant, ils n'ont pas réussi à aller plus loin pour l'instant. C'est vraiment l'étape de dessus pour que nous puissions finalement constater une victoire militaire sur le terrain de l'armée ukrainienne qui est aujourd'hui à la portée de leurs mains, d'où d'ailleurs la communication du président Zelensky et leurs appels à des équipements lourds. Les Occidentaux ne livreraient pas des équipements lourds à une armée qui se contente de faire d'une techno-guérilla. Ils se contenteraient, à ce moment-là, de livrer des missiles, par exemple. Là, on est vraiment sur des unités lourdes. Songez que l'armée américaine vient de livrer 12 batteries complètes, y compris les dotations de guidage et les radars de contre-batterie, à l'armée ukrainienne, de batteries de 155 mm en obusier.
La Russie a perdu son navire amiral, le croiseur Moskva. La Turquie a fermé le Bosphore, donc la Russie ne peut envoyer de renfort naval dans la mer Noire. Ces navires sont bloqués en Méditerranée. Qu'est-ce que ça change ?
Pas grand-chose sur le terrain pour les combattants ukrainiens ou russes ou tchétchènes ou séparatistes dans le Donbass. C'est un succès symbolique, cette victoire. Elle est importante. Ça peut changer si les déclarations faites hier, dont je vous parlais, comme quoi c'était toute la côte qui était visée, sont bien conformes aux nouveaux objectifs de la Russie dans ce conflit, puisqu'à ce moment-là, il va leur falloir à un moment donné conquérir Odessa, et pour cela, il va leur falloir une flotte pour effectuer un blocus, voire même éventuellement menacer d'un débarquement amphibie. Et pour cela, il leur faudrait des unités supplémentaires, mais ces unités, ils n'auraient pas pu les amener, puisqu'en réalité, ces unités, ils les avaient commandées à la France, c'était les deux navires de commandement et d'assaut amphibie Mistral que le président Hollande, suite à l'annexion de la Crimée, a refusé de céder à la Russie. Et on voit les conséquences, car ces navires auraient pu changer les choses dès les premiers jours du conflit en permettant réellement un assaut amphibie sur Odessa qui aurait beaucoup changé la carte du conflit que nous constatons aujourd'hui.
François Hollande a sauvé Odessa ?
On peut le dire, en effet. Mais aussi les défenseurs ukrainiens à Mykolaïv, bien évidemment.
Mariupol, on en a beaucoup parlé. Là aussi, quel intérêt stratégique ?
Eh bien, c'est le port. Odessa est le port directement sur la mer Noire, qui commande après l'embouchure de Dnipr. Mariupol, c'est le port qui permet à la Russie de contrôler l'intégralité de la mer d'Azov. C'est aussi un grand centre sidérurgique, on le voit. Et puis, c'est aussi un point symbolique, puisque c'est une ville qui appartient aux provinces séparatistes, mais qui avaient résisté, qui avaient repoussé les forces séparatistes et que les forces russes envoyées sous faux drapeaux séparatistes n'avaient pas réussi à reconquérir. Les forces ukrainiennes avaient réussi en 2015 à résister et à garder Mariupol. Donc ça, le fait de pouvoir prendre Mariupol, ce serait une grande victoire. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'est la quatrième annonce officielle depuis le début mars de la prise de Mariupol par la Russie et à chaque fois, cette annonce n'est pas confirmée dans les faits, même si aujourd'hui, il y a deux poches qui résistent, qui sont sacrifiées, mais qui ont livré réellement un combat très important puisque les effectifs qui ont été mobilisés par la Russie pour prendre Mariupol ont manqué sur d'autres secteurs du front et on le voit aujourd'hui.
Merci beaucoup Cédric Mass. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Jean Descartes. On va parler d'Elisabeth II.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Elisabeth II a fêté ses 96 ans cette semaine et les festivités pour le 70e anniversaire de son règne auront lieu au Royaume-Uni au début du mois de juin. Elle deviendra à ce moment-là le monarque ayant régné le plus longtemps. Elle aura dépassé le roi de Thaïlande, Bhumibol Abulyadeh, mort en 2016 après 70 ans et 4 mois de règne. Ce sera le cas d'Elisabeth le 7 juin prochain. Jean Descartes, bonjour.
Bonjour.
Vous lui consacrez une biographie chez Perrin, sobrement intitulée Elisabeth II, la reine. C'est la reine, il n'y en a pas d'autre.
C'est-à-dire que c'est tellement la reine que c'est le personnage en fonction, le seul qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça donne une expérience.
Et dont le premier Premier ministre était Churchill, d'ailleurs.
Et dont le premier Premier ministre, à la mort de du père d'Elisabeth en 1952, était Winston Churchill. Et c'est une femme fascinante par l'ensemble des secrets, des dossiers, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a subi. Je ne parle pas des histoires de famille. C'est quelqu'un de très impressionnant. Je dirais simplement que quand on est reçu à Buckingham, ce qui fut ma chance, on est très impressionné par quelqu'un qui a connu tant des preuves familiales, politiques, diplomatiques, les histoires d'espionnage. Enfin, c'est absolument extraordinaire de tenir le coup comme ça.
Moi, ce que je trouve extraordinaire dans le cas d'Elisabeth II, c'est qu'elle n'est jamais allée à l'école. Oui. Au fond, elle n'a aucune éducation.
Oui, mais elle a appris avec une institutrice d'origine belge à parler un très bon français, entre autres. Et elle a appris beaucoup de choses, s'est cultivée elle-même, c'est une grande lectrice, elle adore le spectacle. La famille pensait que ce n'était pas utile d'avoir quelqu'un de cultivé, elle a pensé le contraire et elle a démontré son intérêt pour les peintres, pour les écrivains, pour les artistes, dans tout genre, et elle a continué. Je veux dire, c'est quelqu'un de très, très ouvert.
La cérémonie du couronnement est télévisée, c'est la première fois. Et dans les années 60, elle fera entrer les caméras de télévision à Buckingham Palace. Pas forcément une bonne idée, parce qu'on voit ce qui s'est passé par la suite. Et puis d'ailleurs, le documentaire ne sera jamais rediffusé. Mais on voit bien qu'elle avait compris que les souverains doivent se donner à voir. Au départ, on a gravé leur visage sur des pièces de monnaie, puis on les a vus en peinture, en photo, en film, dans les cinémas, aux actualités, puis à la télévision. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'ils se sont montrés, ils sont tombés de leur piédestal.
Alors, peut-être pas tout à fait. Bon, l'audace d'Elisabeth II, c'est d'exiger que la télévision, qui était assez balbutiement en noir et blanc, retransmette son sacre et son couronnement. Pourquoi ? Pas par mégalomanie, et Churchill était contre, mais pour que les gens dans les villages les plus reculés du Royaume-Uni puissent avoir l'impression d'être invités à Westminster.
Et puis, on doit se montrer.
Parce
qu'on est la reine.
C'est en noir et blanc. Ça va faire monter la vente des téléviseurs, alors que c'est dans ses balbutiements, la télévision.
Comme le discours de son arrière-grand-père avait fait monter la vente des postes de radio.
La vente des postes de radio, absolument. Et puis, la partie sacrée sera cachée par un dé. Mais en même temps, le film est enregistré en 16 mm et en couleur. Et je me souviens de l'avoir vu comme un spectacle avec mes parents à l'Olympia à Paris. Donc, Elisabeth II est le premier personnage, je dirais, la première reine de l'image, puisqu'elle entre en image qu'on voit dans le monde entier.
Et le film documentaire donc, à la télévision qui passe sur la BBC dans les années 60 où elle fait rentrer les caméras de télévision à Buckingham Palace et elle essaye de faire croire qu'ils sont une famille normale.
Voilà, et effectivement c'est une fausse bonne idée, mais la reine a beaucoup appris depuis. Et effectivement, on ne peut pas avoir une vie normale lorsque on est la souveraine non seulement du Royaume-Uni mais de tous les États du Commonwealth. Il y a, et c'est très impressionnant quand vous visitez Buckingham, un terrain pour être vraiment devenir déséquilibré si on ne fait pas attention. Et ce qui m'intéresse avec la reine et son signe du taureau est très intéressant, c'est-à-dire grande volonté, grand optimiste et grande souffrance discrète. Et le dernier discours de la reine cette année, pour Noël, celui qu'on a entendu, était un message de sympathie à tous les gens qui étaient dans le malheur. Elle a une tendance réelle, naturelle, à aller vers les gens. Et, notez bien, depuis la mort du prince Philippe, elle ne met pas son deuil en vedette, pas du tout. Elle, son chagrin, sa douleur, etc. On l'a vu en noir dans la chapelle Saint-Georges. Mais ensuite, on l'a vu avec des robes claires pour un sommet du G7 accueillant tous les chefs d'État et de gouvernement en leur disant « Est-ce que nous sommes censés avoir l'air de rire sur cette photographie ?» Avec beaucoup d'humour, il y a une pudeur et une force de caractère qui tient à son discours de 1947 « Que ma vie soit longue ou courte, j'irai jusqu'au bout. » Alors, il y a une chose très importante que je me permets d'ajouter, c'est que, consciente quand même de ses fatigues, de son âge, le Covid, le choc de la perte de Philippe, depuis quelque temps, le prince Charles a le double des royal boxes, des boîtes rouges du gouvernement, c'est-à-dire de tous les documents diplomatiques, secrets, etc., que le souverain doit connaître pour pouvoir en discuter avec le Premier ministre. Et on sait que la reine a décidé que Camilla serait reine consort. Donc elle prépare bien l'avenir.
On fait une pause, Jean Descartes, et on revient sur Elisabeth et sur sa famille.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Jean Descartes, quand on lit votre livre, celui que vous venez de consacrer à Élisabeth II, qui a donc eu 96 ans cette semaine, on voit bien que le problème de la monarchie britannique, c'est qu'Élisabeth, la reine, occupe toute la place. Au fond, les autres font de la figuration à son service. 70 ans de règne, c'est long pour son fils Charles, qui se prépare à la remplacer, pour son mari Philippe, qui marchait derrière elle, pour sa sœur Margaret, pour ses brus, Diana, Fergie, Meghan ou Camilla aujourd'hui, pour ses enfants, ses petits-enfants, toutes celles et tous ceux qui forment ce qu'on appelle la firme et qui n'ont que leur frasque, leur mariage et leur divorce, au fond, à offrir en spectacle.
C'est ce qu'on pense, mais il y a un gros travail derrière. Et depuis donc quelque temps, Charles est particulièrement informé de tous les dossiers du gouvernement. Il est évidemment furieux de la situation de Harry et Meghan. Regardez, pour cette arrière-grand-mère, le choc, le pire pour elle, c'est qu'elle ne connaît toujours pas son arrière-petite-fille prénommée stupidement Lilibet Diana, ce qui ne va pas la servir dans la vie. C'est la première fois qu'un souverain britannique ne connaît pas un arrière-petit-enfant et qui n'est pas né en territoire britannique.
Qui est né aux États-Unis.
Voilà, c'est une souffrance. J'observe d'ailleurs que les frasques de Harry et Meghan, qui continuent cette semaine, Meghan est allée directement à La Haye pour les Invictus Games, inventés par Harry, ce qui est une très bonne chose. Harry est passé voir sa grand-mère très rapidement, toujours pour se plaindre. C'est un bureau de réclamation en attendant les films tournés avec Netflix, etc. Mais je note une chose, c'est que le roi et la reine des Pays-Bas, où ils se trouvaient donc à La Haye, ont refusé de les recevoir parce qu'ils se tenaient mal avec.
Mais justement, pardon de vous interrompre, Jean Descartes, mais j'ai l'impression qu'Élisabeth, au fond, a mal élevé ses enfants. Elle les a élevés avec froideur, avec indifférence, sans amour, selon des traditions et un protocole daté. D'où le mal-être que l'on ressent alors chez Charles, évidemment, mais aussi chez le prince Andrew, submergé par le scandale Epstein, ou chez le prince Harry et sa femme, Meghan, qui vont s'épancher chez Oprah Winfrey. On le sentait également chez la princesse Diana, dont les plaintes et la mort ensuite ont été terribles pour la monarchie britannique. Ce qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui chez Harry et sa femme.
Oui, mais si vous voulez, tout ce qui déplaît à la reine, c'est l'étalage de ses douleurs. Elle en a eu beaucoup personnellement qu'elle n'a jamais voulu montrer. On sait à peu près d'une façon certaine que le seul moment où elle a pleuré, c'est lorsqu'elle a versé une larme pour la mise à la retraite de son yacht, le Britannia, qui était sa vraie maison. Et lorsqu'elle a appris l'assassinat de Lord Mountbatten, elle s'est éloignée dans le jardin où elle se trouvait et elle a été secouée de spasmes parce qu'elle ne veut pas imposer au public la vision du drame. Et j'observe qu'elle fait le contraire de sa trisaïeule Victoria. Elle ne veut pas imposer le deuil à tout le monde. Elle veut continuer jusqu'au bout. Donc pas de noir, pas de, si vous voulez, pas de drame permanent. C'est pour ça qu'elle a décidé que Camilla serait reine consort, qu'elle a accepté ce mariage. Autrement dit, elle prépare l'avenir.
Elle revient de loin parce que les années 90 ont été un cauchemar pour Elisabeth II, hein, avec le Camilla Gate, les conversations salaces entre Charles et Camilla dans les journaux à l'époque, le divorce avec Diana, les interviews de Diana à la télé dans les journaux, les liaisons de Diana, la mort de Diana, le nombre de Britanniques qui voulaient abolir la monarchie grossissait dangereusement. Il y en avait même une au 10 Downing Street, la femme du Premier ministre, Tony Blair. Or, la seule fonction de la reine, c'est le maintien de la couronne. Au fond, elle n'est là que pour ça, pour que ça dure, à n'importe quel prix.
Mais qui est un lien, si vous voulez, formidable, y compris dans les États du Commonwealth, même s'il y en a moins qu'à son avènement. C'est un personnage unique qui a connu tout le monde. Elle doit être à son 17e ou 18e Premier ministre. Elle en a eu des farfelus. Elle a obtenu des funérailles nationales pour Churchill. Elle a eu un mot fantastique parce qu'elle ne doit pas parler du Premier ministre, faire de commentaires. Elle a fait une exception en disant de Churchill, il était divertissant. C'est un mot assez bien choisi. Et elle est là depuis si longtemps, le nombre de papes, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, y compris en France, qu'elle a rencontrés, que c'est une institution.
Et les règles aussi, à quel point elles ont changé. Parce que les règles d'hier sont oubliées, remplacées par celles d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas elle qui les change, au fond. Édouard VIII n'avait pas pu épouser une Américaine divorcée, c'est pour ça qu'il a abdiqué. Sa sœur Margaret n'a pas pu épouser son amoureux, lui aussi divorcé. Mais Charles et Harry ont fini par faire ce qui était interdit. La reine a fini par se plier, par s'adapter. C'est la seule manière de continuer comme avant.
Oui, c'est évident. Il y a une évolution des mœurs. Mais pour reprendre l'idée des années 50, il faut quand même dire que le Royaume-Uni a été héroïque et a été exsangue. Pour son mariage, Elisabeth a dû demander des coupons de tissu à ses meilleurs amis, tellement les restrictions étaient effrayantes. Moi, je me souviens de mes premiers voyages à Londres. Enfin, on était encore dans le charbon et il n'y avait rien d'autre. Un héroïsme, si vous voulez, qu'elle a vécu comme ses sujets, un œuf le dimanche, et l'eau du bain était faible niveau et pas très chaude, les restrictions de toute la population britannique. Elle a une façon formidable de partager la douleur sans l'imposer d'une façon stricte. Et avec beaucoup d'humour en même temps. Elle continue de faire ses mots croisés dans les journaux. Elle fait des blagues avec son téléphone portable. C'est un personnage absolument incroyable.
Elisabeth II, la reine, c'est le titre de votre biographie publiée chez Perrin. Merci Jean Descartes.
Merci.
On fait une pause. On se retrouve juste après avec Diane Ducré.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Diane Ducré.
Bonjour.
Est-ce que vous avez fêté le 96e anniversaire d'Elisabeth II ?
Mais bien sûr, mais avec les chevaux surtout, ces magnifiques chevaux gris.
C'est vrai que vous êtes une cavalière. Vous avez, sur cette photo, vous avez regardé les chevaux.
Bah ouais, bien sûr. Ils ont plus de dents, qu'elle.
Vous vous êtes fait connaître il y a 10 ans maintenant avec Femme de dictateur. Depuis, vous écrivez surtout des romans. Le nouveau s'intitule Le Maître de l'Océan. Il vient de paraître chez Flammarion. Qui est-ce, Le Maître de l'Océan ? On peut le présenter comment ?
C'est un jeune orphelin qui a perdu sa mère et qui doit être confié à un monastère taoïste pour devenir un moine et qui refuse absolument d'être enfermé à lire des textes sacrés, à méditer, puisque ça l'emmerde, et qui veut absolument aller voir l'océan, puisque sa mère, avant de décéder, avait eu une vision, une vague éternelle qui se déroulait comme ça en haut d'un temple. Et donc, il va arriver chez nous, au pied du Mont Saint-Michel, et découvrir beaucoup de choses.
Alors, quand vous dites c'est le maître de l'océan, de quel océan est-il le maître exactement ?
C'est justement la question, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement qu'un seul océan ? La mer est une, elle est partout et au plus haut point, même sur les montagnes que l'on soit, on est toujours au beau milieu de l'océan, qui est en nous aussi d'ailleurs, puisqu'il nous constitue.
On dirait bien d'ailleurs, en lisant ce roman, que pour vous, l'océan recèle un secret. C'est la clé de voûte qui relie toutes les questions.
Oui, c'est vrai. Je me suis vraiment intéressée, alors outre l'aspect romanesque, un petit peu du conte philosophique que j'avais beaucoup aimé plus jeune, qu'on trouvait chez Voltaire ou chez Montesquieu au XVIIIe siècle, toujours cette notion de cet étranger qui va arriver et nous offrir un regard sur nous à travers finalement son propre exotisme ou ce que l'on pensait être son exotisme et qui était souvent d'ailleurs que le reflet de nos propres fantasmes. J'aime beaucoup retrouver la spiritualité, la philosophie qui est à l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire qu'elle est au cœur d'énormément de pensées. D'abord, c'est le principe vraiment nourricier, le principe de toute vie. La femme fait grandir un océan intérieur elle aussi pour faire naître la vie, mais surtout à l'intérieur du taoïsme, comme des textes religieux, catholiques, chrétiens ou juifs, il y a la présence de l'eau, l'esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux dans la Genèse. L'eau préexiste donc à Dieu quelque part. Le Christ se manifeste toujours face à des eaux en pleine tempête qui symbolisent la peur et il maîtrise, il est celui qui est capable de regarder l'océan et de lui dire calme-toi et l'eau s'apaise. Ce qui montre qu'il est capable de maîtriser non seulement les instincts humains mais la plus féroce des forces, l'eau.
Alors quelle est l'influence du taoïsme sur ce roman ? Je rappelle que le taoïsme c'est une doctrine philosophique et religieuse très populaire dans la Chine ancienne. C'est une religion, à la différence du confucianisme qui lui est une philosophie mais pas une religion. Et le taoïsme a été violemment combattu sous Mao. C'est d'ailleurs sous Mao que naît votre héros. Il est revenu en grâce depuis les années 80. Mais alors c'est une fable, un conte, une leçon, un roman d'initiation. Est-ce que vous voulez conduire vos lecteurs sur la voie voix du Tao, la voix de l'harmonie. Et je me demande si c'est une bonne idée, parce qu'il y a déjà beaucoup de religions qui cohabitent dans notre pays. Est-ce qu'il est très sage, à votre avis, d'en rajouter une?
Alors, une réponse taoïste serait de dire c'est tout à la fois, puisque le un est tout et tout est un, ce que nous ferait aussi Parménide en Grèce antique comme réponse, c'est-à-dire que c'est l'indivisibilité. Il ne faut pas chercher à séparer les choses en catégories comme celle-ci pour les saisir dans leur ensemble. Mais plus concrètement, dans ce livre, ce n'est pas un livre sur le Tao, c'est vraiment ce voyage en fait, entre l'Orient et l'Occident, et ce passage pour ce jeune personnage entre l'âge d'enfant et l'âge d'homme, à travers justement l'océan qui va être qui va être comme un miroir de son âme et lui faire développer cette sorte de philosophie de la vague, c'est-à-dire se confronter à quelque chose de plus grand que soi, de plus éternel que soi, de plus transcendant et de plus gracieux, donne à l'homme une place.
Alors c'est un jeune moine qui part des monts Widang, ces monts qui sont célèbres justement parce qu'ils sont le berceau du taoïsme.
Et des arts martiaux internes, de l'acupuncture, d'une très très grande sagesse millénaire et qui ont été en effet assez massacrés par Mao. On dit que le taoïsme a été réhabilité, mais il en reste que quelques-uns. C'est une richesse humaine folle.
Donc il part de là-bas pour débarquer à Marseille et il se retrouve dans un autre monastère au bord de l'océan Atlantique où il commence à apprivoiser la mer. Et très vite, il voit des surfeurs. Je me demande ce que le Tao dit sur le surf.
Il trouve ça absolument fascinant. D'abord, c'est vrai qu'il loge donc dans ce monastère et où il découvre les textes chrétiens que je trouve extrêmement modernes et poétiques. Là aussi, quand on les prend par ce biais-là, on n'est pas obligé de les prendre comme des dogmes religieux, je trouve. On peut reprendre tous ces textes, pas pour leur philosophie, de manière extrêmement laïque. Y a
quelque chose. Et pour leur poésie, parce qu'il y en a tous en nom.
Absolument. Et donc, oui, il va sur la plage tous les jours, parce qu'en effet, il a demandé au maître céleste, c'est comme ça qu'on les appelle, l'autorisation de pouvoir aller voir l'océan. Et celui-ci lui a répondu, oui, mais tu ne reviendras pas avant que l'océan t'ait parlé. Donc il reste comme ça. Un peu en mode 7 ans au Tibet ou Siddhartha, finalement, d'Hermann Hesse, que j'avais beaucoup aimé. Et il reste devant cet océan qui ne parle pas. Hein. Alors évidemment, donc il regarde un petit peu. Alors après, voilà, il a habitué son oreille à écouter une autre parole non verbale, peut-être aussi, de la nature ou de l'esprit. Mais donc il voit ces surfeurs, il trouve ça absolument formidable, magnifique, cette liberté, cette grâce, justement, de maîtriser la vague. Finalement, il y a un côté très christique, très chrétien, là encore. Peut-être parce que lui, dès qu'il essaie, évidemment, il est victime justement de la vague. C'est-à-dire, dès qu'on va avancer vers une vague, on a tendance, et que celle-ci gonflant ses flots, on a tendance à vouloir reculer pour ne surtout pas être emporté. Ce qui est une erreur, puisque la vague va vous casser dessus et vous allez être vraiment pris dans ces baïnes, dans ces courants.
Et puis la vague est infinie en plus, c'est ce que nous explique ce roman.
Ouais. Ben oui, c'est vrai, elle est infinie dans sa force, elle est infinie dans sa puissance, mais on peut la traverser en revanche, ce qu'il va découvrir par la suite, c'est-à-dire au lieu de la subir comme un mur d'eau qui s'abat sur vous, de la même manière que les deuils, les maladies ou les accidents de parcours, on peut traverser la vague et finalement ressortir de l'autre côté où l'océan est toujours calme en fait, et où l'horizon est toujours le même.
Quelle est la morale de ce livre, à vos yeux, à vous, Diane Dugré?
Je dirais qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a, cette notion. En une phrase, mais c'est horrible Frédéric ce que vous me faites. J'y ai mis quelque chose de très personnel en fait. C'est le récit, c'est la philosophie qui m'a permis de survivre et qui m'a permis de tenir après avoir découvert, après d'abord 10 ans de handicap qui m'a rendu incapable de marcher. Moi j'ai quitté mon pays, mes parents, à l'âge de 3 ans, et donc j'ai toujours eu comme lui cette sensation d'être en exil et de chercher une sorte de plénitude originelle, d'amour originel, appelons-le comme on veut, mais ce sentiment d'être seul au monde et d'être malvenu au monde. Et par la suite, le handicap qui m'a laissé figée à un âge où on est censé parcourir le monde, et j'ai toujours...
À cause d'un cheval d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai, enfin, surtout à cause d'une infection nosocomiale comme Guillaume Depardieu malheureusement, qui m'a privée d'une jambe pendant plus de 10 ans avec de nombreuses opérations, et pourtant j'ai toujours eu l'impression d'être un grand voyageur alors que je bougeais pas, et j'ai eu cette chance de grandir au bord de la mer, d'être adoptée là, et en fait l'océan je pense vraiment m'a sauvée, c'est-à-dire si on se pense très important, la mer est plus grande que vous, ça va vous calmer et vous remettre à votre place. Si on se pense désespéré, peu importe ce que l'on vit, on fait partie de ce tout. Ça s'appelle le sentiment océanique. Alors j'ai découvert ce sentiment, ce courant philosophique élaboré par Spinoza, qui va courir jusqu'à Romain Rolland, Freud, on parle Freud aussi finalement, dont beaucoup d'intellectuels vont s'emparer, qui est une vision du miracle et de la libération, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au début, c'est ce sentiment d'angoisse presque kierkegaardienne, en fait, face à quelque chose d'infini comme ça, une angoisse sans fond qui nous saisit. Et puis, soudain, une sorte de lâcher prise à la compréhension qu'on fait partie d'un même tout avec cette transcendance infinie qu'est l'océan, avec sa force, avec sa puissance, et que finalement, on en fait partie nous-mêmes et qu'on est l'héritier de sa force ou de sa puissance aussi. Et donc, à ce moment-là, il y a un grand sentiment de plénitude qui s'empare, qui est décrit comme, par Spinoza comme une vision du miracle ou de la foi. J'aime bien cette idée.
Ben, vous voyez, vous y êtes parvenu.
En une seule phrase, non, du coup, hein, c'est un échec. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché, comme dirait l'autre.
Le maître de l'océan, c'est signé Diane Ducret. Ça vient de paraître chez Flammarion.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine arrive à sa fin. Rendez-vous demain matin pour 2 heures d'émission, dont une consacrée à Françoise Hardy. En attendant, je vous souhaite une bonne journée sur Europe 1. Les grandes voix commencent dans quelques instants. C'est Christophe Pallais qui remplace aujourd'hui Pierre de Villeneuve, qui vient de pénétrer dans le studio. Quel est le programme, Christophe ?
Eh bien, Frédéric, vous le savez, il nous est interdit de parler de la présidentielle depuis minuit jusqu'à demain soir 20h. C'est la période de réserve électorale. Alors, dans les grandes voies ce matin, nous allons parler de l'Ukraine, beaucoup, et de Boris Johnson, un peu.
Bonne émission, Christophe.
Merci, Frédéric.